Les creux de maison. Troisième partie, chapitre 3. La braconne. Le dimanche, Séverin faisait de longues courses dans les champs. Dès les premiers temps de son veuvage, il avait commencé à sortir ainsi pour ne pas rester immobile, à songer. Puis, peu à peu, il avait pris le pli de ne jamais rester tout un dimanche au village. Quand il n'était plus utile chez lui, il s'en allait voir les semis de maïs, ou bien les jeunes plants de choux, ou bien les champs de pommes de terre, où le sol commençait à se soulever autour des tiges. Il passait sur les guérets, arrachait une ravenelle ou une touffe échappée à la herse. Il longeait les haies, où bruissent, dans l'ombre chaude, des bêtes ignorées. Il détruisit 4 ou 5 nids de vipères. Il regardait comment les branches poussent. S'asseyant dans les chintres, il s'amusait à cueillir et à considérer les herbes sans nom, les herbes indifférentes sur lesquelles grimpent de petites bêtes, sans nom aussi, qui sautent quand on les touche ou font les mortes. Il remarquait des choses auxquelles il n'avait jamais fait attention jusque-là. Un dimanche du mois d'août, comme il était de garde chez les Chauvins, il sortit dans l'après-midi pour aller voir ses 4 sillons de pommes de terre dans les grandes jauneries. Au retour, il s'attarda à cueillir des noisettes. Elles abondaient dans 2 ou 3 haies écartées que les enfants n'avaient pas encore pillées. Le dimanche suivant, il revint au même endroit, et l'autre dimanche encore. Il finit par cueillir ainsi 10 de litres de noisettes que la Bernoude fit sécher hors de la portée des enfants et qu'elle vendit 20 sous au Bégassard. « Tiens, » pensa Séverin, « je n'ai pas perdu mon temps. » À partir de ce jour, il fit attention aux choses qui se perdent et que le passant a, de par l'usage, le droit de ramasser. Et même, à partir de ce jour, il rechercha ces choses pour les rapporter aux enfants ou pour en faire de l'argent. Il s'inquiéta, par exemple, des endroits où poussaient les champignons. Son défunt père, qui s'était empoisonné 2 fois, lui avait appris à reconnaître les bons, mais il ne se souvenait plus bien des espèces. Il en cueillit 2 douteux qu'il essaya avant les enfants. Au mois de novembre, il ramassa 1 bon double de châtaignes de bois. Il courut très loin chercher des jets de bourdaine qu'il échangea contre du beurre. Au printemps, il sut trouver, dès les premières journées chaudes, toute une brassée de muguets fleuris. Bas Bleu en fit 5 bouquets qu'elle alla offrir aux dames de Coutigny. Cela rapporta 10 sous. Séverin était devenu rusé. Il disait aux petits coureurs de haies des secrets sans importance, puis il les écoutait se vanter à leur tour de leurs trouvailles, et il recueillait des renseignements dont il profitait. Il put ainsi trouver sans peine 3 nids de merles. Il dénicha 12 petits qu'il mit dans une cage et Bas Bleu mangea l'un après l'autre, cuit avec un peu de beurre dans une pomme de terre creusée. Bas Bleu était sa préférée. Elle toussait toujours beaucoup et cela inquiétait son père. Pour lui faire un remède, il fallait, entre autres choses, du cresson. Séverin en cueillit de ci, de là. Or, le cresson n'est pas tout à fait à celui qui le trouve. C'est une demi-maraude. 1 an plus tôt, Séverin n'aurait jamais fait cela. Il eut encore une hésitation, mais, à force de se débattre contre la misère, il s'habituait à ces hésitations-là. Bas Bleu était malade. Il fallait du cresson pour la guérir. Alors quoi? Demander. Demander toujours. On s'en lasse encore plus vite qu'on ne se lasse de donner. Séverin, en coupant du cresson dans le prébas des larrains, se disait « Quand je verrai le voisin, il faudra que je le prévienne. Ça vaudra mieux. » Il le vit le soir même. Mais Larrain était justement un sauvage, très dur au pauvre monde. N'avait-il pas grondé méchamment les Bessons qui ramassaient des bouses sur le chemin roux près du haut village? Séverin, craignant d'être mal accueilli, garda la chose pour lui. Et bien mieux, le dimanche suivant, il revint dans ce même pré où coulait un petit ruisseau peuplé de grenouilles et de vairons. Il y revint avec un grand panier, assez large, pour barrer tout le courant. Il réussit à prendre une assiettée de petits poissons. Quand l'été fut venu et que le ruisseau fut presque à sec, Séverin épuisa des trous. C'était une pêche fatigante, et cela pouvait rapporter un procès, mais les enfants se régalaient au retour. Un jour, il prit une anguille. Une autre fois, ce fut un sang d'écrevisse que l'Augustine, par complaisance, porta au marché et vendit 30 sous. À vrai dire, Séverin prenait goût à la pêche. Il passait tous ses dimanches au bord de l'eau, l'oreille au guet, par crainte des gendarmes. Il en arriva à rêver des coups plus fructueux. Une nuit, il essaya de prendre des grenouilles en les attirant avec une chandelle. Il avait entendu dire que l'on réussissait ainsi des pêches étonnantes, mais il ne prit rien. Une autre fois, un samedi soir, il voulut emmener Gustinet pêcher dans la Sèvre, très loin. Heureusement, Gustinet refusa. Il craignait l'eau, ne s'étant baigné que 2 fois pendant son service. D'anciens désirs de braconne se réveillaient aussi en Séverin. Il commençait à suivre de l'œil les vols de perdrix et à relever la trace des lièvres. Mais il hésitait à chasser à cause des désagréments certains que cela lui amènerait. Il se souvenait de son défunt père, à qui la réputation de tendeur de lacets avait fait si grand tort. Pourtant, un jour, il attrapa un écureuil vivant, qui lui fut acheté 5 sous. La semaine suivante, il trouva une nichée de lapins et réussit à prendre tout, la mère et les petits. Enfin, un dimanche de décembre, comme la neige était sur la terre, il partit avec 2 francs braconniers des pelleteries. Toute la journée, les 3 hommes suivirent des pistes de bêtes. La chasse fut bonne. 2 putois et 4 lapins. Séverin eut 4 francs pour sa part. Cela l'allécha. Un beau matin, il acheta un peu de poudre et du plomb. De temps en temps, il empruntait le fusil de Gustinet, un vieux fusil à baguette dont la crosse en bois blanc se démontait, et, par les beaux clairs de lune, il sortait seul pour aller se mettre à l'affût dans quelque clairière. Il prenait de grandes précautions pour ne pas être vendu, mais les chasseurs des environs finirent tout de même par se méfier, et plus d'une fois, les gendarmes rôdèrent autour des pelleteries et autour du pâtis. Un jour, comme Chauvin se disposait à sortir de chez M. Magnon, à qui il venait de payer son fermage, il s'entendit rappeler.
« Chauvin !» criait M. Magnon. « Chauvin, j'ai encore quelque chose à vous dire. »
Le fermier revint dans la cuisine, où l'autre l'avait reçu.
« Quoi donc, notre maître ?»
Le maître était grave. Il questionna comme un juge.
« Dis donc, Chauvin, y a-t-il des perdrix cette année au pâtis ?»«
Dame, je vous dirais que je n'y prête point attention. Je crois tout de même qu'il n'y en a pas plus qu'à l'habitude. Seulement, je n'en suis pas sûr.
Je ne sais pas trop, voyez-vous. Je sais, moi. »«
Ah ? »
Et je sais aussi pourquoi il y en a moins qu'à l'habitude.
Oh, peut-être bien.
Oui,
le pourquoi?
Ce sont les braconniers. On les connaît. Il y en a un chez vous, Chauvin.
Ça, notre maître, ceux qui vous l'ont dit sont des menteurs. Il n'y a jamais eu de fusil chez nous, et ni moi ni mes gars n'avons jamais chassé.
Je ne parle pas de vous ni de vos gars, mais votre valet braconne. « Entendez-vous bien ?
Et faites attention à ce que je vais vous dire maintenant. Je ne veux pas de braconniers sur mes terres. À la Toussaint, vous vous débarrasserez de ce gaillard-là. »«
Je ne pourrai pas, notre maître. C'est trop tard à présent. Nous avons fait marché pour l'année prochaine. »«
Oh, ça m'est égal. Arrangez-vous comme vous voudrez.
Il s'en ira. D'ailleurs, le malheur ne sera pas grand. » un homme qui n'a que la rapine en tête ne doit pas être un bon valet.
Ah, pour ça, notre maître, vous faites erreur.
Je ne sais pas si Paturo braconne, mais ce que je peux vous dire, c'est que les travailleurs comme lui, on ne les ramasse pas à la pelle.
Ce sont des comptes, allez, qu'on vous a fait.
Non, je ne crois pas qu'il braconne.
Monsieur Magnon eut un geste d'agacement. Quand je vous le dis, moi,
il est de race, l'animal. Souvenez-vous du père.
Le fils est tout pareil.
Ça crève de faim, mais ça veut faire comme les riches. La maraude, la chasse, la pêche, tout est bon.
Ça vous a des pattes crochues. Ça tire tout à soi.
Pas plus tard que dimanche dernier.
Vous voyez que je suis renseigné. Il a vendu votre Paturo. Il a vendu un lièvre 4 francs à une personne du bourg.
Oui, Chauvin, un lièvre de 7 livres.
Une femelle, et pleine encore. Et voilà comment moi qui ai du bien, moi qui nourris des chiens, moi qui paie un permis, je ne ramasse rien au temps de la chasse.
4 francs? Voilà 4 francs bien tombés, pensa tout haut Chauvin.
Ah, vous êtes dans ses goûts?
Non, non, pas, notre maître. Vous savez que je n'ai jamais été pour la braconne.
Je dis seulement qu'il y a de la misère chez mon valet. Il y a 2 ans, la mère est morte pour avoir travaillé au-delà de ses forces. Et maintenant, il n'y a que le gage du père pour faire vivre toute la nichée. 6 enfants et une ancienne.
Ça ne fait pas une grosse chic pour chacun, allez.
Eh oui, Chauvin. La misère, la malchance, les drôles, les vieux et patati et patata. Voilà des gens qui reçoivent du pain de la commune, qui reçoivent du pain de leurs voisins, des gens à qui l'on paie le médecin, des gens à qui l'on vient en aide de tous les côtés.
Eh bien, ça se plaint tout de même, et au besoin, ça vole.
Oh, le valet de chez nous n'est point un voleur.
Ne vous y fiez pas.
En tous les cas, s'il ne vous vole pas, il vole les chasseurs honnêtes.
Il me vole, moi. Je ne le souffrirai pas.
Comme s'il se fût parlé à lui-même, M. Magnon continua avec une amertume évidemment sincère.
Ouais, ça vient se plaindre par-dessus le marché. Le monde change. Il y a seulement 30 ans, on voyait bien plus de misère qu'on en voit aujourd'hui.
Mais les malheureux de l'ancien temps mangeaient des pommes de terre avec leur pain noir.
Et même, quand ils n'avaient pas de pommes de terre, ils mangeaient leur pain tout sec.
Cela ne les empêchait pas de vivre.
Ils ne se plaignaient pas.
À présent, personne ne veut plus se tenir à sa place.
Les riches ne se distinguent plus des travailleurs.
Je vois des paysans presque aussi bien habillés que mes 2 garçons.
Les filles sont encore pires. Coiffes de soie, rubans, bottines, tout le tralala.
Oh, la gloire est montée.
Et la gourmandise aussi.
Chez les fermiers, et même chez les valets, on ne se prive plus.
Le café, le sucre, le vin, tout ça roule.
Il faut du beurre, il faut des œufs, il faut du lard.
Bientôt, ils vont tous aller à la boucherie, ma parole.
Étonnez-vous après de voir tout enchérir.
Pour vivre aujourd'hui, il faut des 100 et des 1000.
Les propriétaires seront obligés de travailler comme les autres, nom d'un chien.
Allons, notre maître, ne vous tracassez pas.
Il y en aura qui fléchiront avant vous. M'est avis qu'il y en aura beaucoup.
Monsieur Magnon se rengorgea, flatté.
Eh bien, fit-il avec rondeur, pour en revenir à ce que nous disions, c'est donc une affaire entendue. Vous prendrez un autre valet.
Ah, je ne peux pas. Je vous ai dit que nous avions fait marcher la semaine dernière.
Si vous voulez, je dirai à Paturo de ne plus braconner.
Il m'écoutera peut-être.
Je me fiche de ce que vous lui direz.
Je me fiche de votre marché.
Je veux qu'il parte, et ça suffit.
Vous ne comprenez donc pas ce que je vous dis.
Vous pouvez vous vanter d'avoir la tête dure.
Chauvin répondit encore.
Non, je ne peux pas. Je le voudrais bien, mais c'est impossible. Un marché ne se défait pas. Alors, moi, propriétaire, je ne compte plus. Ce sont des choses qui ne regardent que vous, pas vrai, Chauvin? Eh bien, je me souviendrai de ça, et vous verrez ce qui arrivera. »
Le vieux paysan releva la tête. « Notre maître, je ne demande qu'à vous faire plaisir. Mais cette fois, vous voulez une chose qu'un chauvin n'a jamais faite. Ce que j'en dis là, ce n'est point pour le valet, bien que ce soit un gars méritant. Mais quand j'ai fait un marché, quand j'ai tapé dans la main d'un homme en disant « c'est tant », eh bien, c'est tant. Et le marché tient toujours, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. J'ai toujours fait comme ça, depuis que j'ai l'âge de raison, et je ne veux pas changer de mode à 60 ans. Voilà ce qu'il en est, notre maître. À présent, il arrivera ce que vous voudrez. »
Le rentier se leva, bredouillant des menaces. « C'est comme ça. Eh bien, fichez-moi le camp. Nous nous retrouverons, mon vieux. Vous me paierez ça plus cher qu'au marché. Et quant à votre valet, nous allons nous en occuper. Vous pouvez l'avertir, si vous voulez. Le diable m'emporte, s'il n'est pas pincé. »
Séverin fut pincé, en effet, mais pas tout de suite. Car sur l'avis de Chauvin, et se sentant d'ailleurs étroitement surveillé, il cessa d'aller à l'affût. Il fut pincé un an plus tard, au mois de septembre, en plein jour, et par M. Magnon lui-même. C'était dans la soirée, vers 4 heures. Le plus jeune des Chauvins, Florentin, arrachait des pommes de terre le long de la haie bordant la route. Séverin, lui, travaillait au milieu du champ, près d'un tombereau vide. Il piochait machinalement. Soudain, Florentin cria « Séverin ! Séverin ! Un lièvre !» Un lièvre avait en effet percé la haie à côté du jeune homme et, par une raise, il venait droit sur le valet. Celui-ci, instinctivement, lâcha son pic, saisit un aiguillon qui se trouvait à côté de lui, se baissa vivement et, de toutes ses forces, lança un coup rasant. Le lièvre, touché au museau, eut un « couic » prolongé. 2 ou 3 soubresauts l'agitèrent, puis il s'allongea entre 2 sillons. Séverin fit signe à Florentin qui accourut. Ils examinèrent le lièvre. C'était un jeune. Il pesait dans les 5 livres.
« Ça se trouve bien, » dit Séverin. « Mes drôles ne sont pas rudes en ce moment. Ça leur fera du fricot. »
Mais Florentin, qui maniait la bête, fit remarquer qu'elle avait une patte cassée. Elle avait reçu un coup de fusil. Alors ils se rappelèrent avoir entendu des aboiements et 2 détonations sur la gauche, quelques instants plus tôt.
« Les chasseurs vont arriver, » dit Florentin. « Ce sont les maîtres. Oh, ton affaire n'est pas claire. »«
Nom de nom ! Je n'ai pourtant pas envie de leur laisser ce lièvre.
Oh, tu serais bien bête. D'ailleurs, si tu le laisses, ils te chercheront chicane tout de même.
Cache-le donc, et vite. Moi, je me sauve. »
Pendant que le jeune homme se hâtait vers son outil, Séverin lança le lièvre dans le tombereau et vida par-dessus un sac de pommes de terre. Puis, il se remit au travail. Il était temps. Des aboiements furieux se faisaient entendre dans le champ voisin, de l'autre côté de la route. Les chiens avaient retrouvé le pied. Ils percèrent la haie à leur tour et se précipitèrent entre les sillons. Arrivés au milieu du champ, ils se séparèrent encore. À ce moment, un gros homme essoufflé enjamba l'échalier à côté de Florentin. C'était M. Magnon père.
« As-tu vu la bête ? » demanda-t-il au jeune homme.
« Quelle bête ? »
« Un lièvre. »«
Un lièvre ? » ?»«
Oui, un lièvre que j'ai tiré tout à l'heure. »
Le gars dit enfin de sa voix lente, « Non, je n'ai rien vu. Oh, il a pu passer sans que je m'en aperçoive, d'ailleurs. Vous savez, quand on travaille... »
Mais déjà, le maître n'écoutait plus et se lançait derrière les chiens. Quand il eut fait 20 pas, il s'arrêta, surpris.
« Oh, c'est trop fort ! »
cria-t-il à son fils qui arrivait avec un autre chasseur.
« Les chiens perdent encore le pied ici. Pourtant, je suis sûr de l'avoir touché. Il ne doit pas être loin. »
Séverin vit les trois hommes se rapprocher et parler bas en regardant de son côté. Puis la voix de M. Magnon se fit encore entendre, haute et menaçante.
« Il n'y a pas à dire, le lièvre est ici. Ce n'est pas d'hier que je chasse. Je me méfie. Il faudra que tout cela se tire au clair. »
Cependant, son fils rappelait les chiens et les remettait sur la piste. Le même manège recommença. Les chiens s'égaillèrent encore.
« C'est tout de même raide, » fit-il à son tour. « Le lièvre s'est envolé, sans doute. »
Il allait interpeller Séverin lorsque le troisième chasseur, qui, fatigué, s'était assis sur l'aiguille du tombereau, poussa une exclamation de surprise. Tous ceux qui étaient là levèrent la tête. Les deux paysans, à chaque bout du champ, cessèrent de travailler.
« Venez donc voir, » disait le chasseur. « Il y a du sang sous le tombereau. »
Les Magnons accoururent et se baissèrent vivement. Du sang, en effet, avait goutté entre les planches disjointes.
« Je m'en doutais bien !» cria le vieux. « Oh, la crapule ! Où l'a-t-il fourré ?»
Les chiens aboyaient furieusement. L'un d'eux, d'un bond formidable, fut dans le tombereau. Tout de suite, il fouilla dans les pommes de terre et découvrit le lièvre.
« Je le savais ! Je le savais !»
hurla M. Magnon.
« Voleur ! Tu es pris ! Cette fois, cela va te coûter cher !»
Séverin pensa. Ça y est, j'ai eu tort d'écouter Florentin. Il s'avança pourtant son pic à la main.
C'est à moi que vous parlez, monsieur Magnon? Mais non, c'est au pape.
Ce n'est pas toi qui m'as volé ce lièvre?
Ose donc le dire.
Je ne vous ai rien volé. Je trouve que vous lancez vos paroles. Ce lièvre est passé à ma portée, je l'ai tué d'un coup de bâton.
Il est à moi, je pense.
Il est à toi?
« Tu vas le voir, canaille, comme il est à toi !»«
Ah, tu ramasses le gibier devant ma chasse !»«
Qu'est-ce que tu dis ? C'est peut-être toi qui as cassé les pattes à ce lièvre d'un coup de fusil !»«
Ah, je ne savais pas que vous l'aviez tiré, moi !»« Croyez-vous que j'ai le temps d'écouter s'il y a des gens qui chassent ici ou là ?»«
Oui, je te connais !»«
Enfin, tu es pris ! J'ai des témoins !» Et ce n'est pas trop tôt. Il y a assez longtemps que les gendarmes et les gardes te surveillent.
Séverin eut un sourire de mépris. Je sais, je sais. Vous n'avez pas besoin de m'apprendre que vous êtes un mouchard.
Qu'est-ce que tu dis ? Crièrent en même temps les deux Magnons.
Je dis que vous êtes des mouchards. Vous, le vieux, vous en êtes un. Et vous, le gars, aussi. Vous êtes connu pour ça.
Florentin, entendant les voix monter, avait quitté son travail. Il vint se placer à côté du valet et le tira par le bras en essayant de l'apaiser. Mais Séverin se dégagea d'une secousse. « Laisse-moi, Florentin. Je veux leur dire ce que j'ai sur le cœur. » Puis, tendant le poing vers les chasseurs, « Sale mouchard ! » cria-t-il. « Vous m'avez vendu. Vous êtes tous pareils. » Tous les porteurs de permis, tous les riches, avec toutes vos rentes, vous êtes jaloux des crèves de faim. Quand on vous dit qu'un valet a tué un lapin et qu'il l'a vendu pour payer le boulanger, vous courez chez les gardes et chez les gendarmes. Je le sais bien, allez, que vous m'avez vendu. Et maintenant, vous venez me honnir, sale mouchard que vous êtes. Vous allez me faire avoir un procès. Eh bien, « je m'en fiche de votre procès, de vos gardes et de vos gendarmes, et je me fiche de vous, à vous trois qui êtes là, vous ne valez pas une gifle !» Rouge, les yeux exorbités, sous la menace d'un coup de sang, M. Magnon s'étranglait à crier
« Voleur, canaille, tu me le paieras, tu iras en prison, il y a des témoins, tu iras en prison, fripouille !»
Le troisième chasseur, qui n'avait rien dit pendant la dispute, déclara d'une voix nette.
« Le vol est manifeste. Ce sera en effet de la prison. Quant à l'autre, il est évidemment complice.
« Oui, toi aussi, Florentin, nous te retrouverons, » hurla le rentier.
« D'abord, je vais passer chez ton père.
Ah, je vais vous les faire fourrer en prison, les canailles !» Il ramassa le lièvre et, suivi des deux autres, s'en alla en gesticulant. Devant l'échalier, il se retourna pour insulter encore le valet.
« Voleur, tu es en prison ! Ah, que je suis content !»
Alors Séverin, qui s'était remis au travail, se redressa et cria lui aussi, à pleine poitrine.
Hé, dis donc,
si je vais en prison, j'en sortirai un jour. Et quand j'en serai sorti, je te retrouverai. Ouais, je saurai bien te dénicher, toi et aussi tes gars. Alors, bon Dieu, nous réglerons ça. Je me charge de te faire sonner la peau du ventre, vieux crapaud ferré. Il cria ces paroles dans sa colère. Dès qu'il fut un peu calmé, il les regretta. C'était une bien mauvaise affaire qu'il venait de se mettre sur les bras. Il y aurait procès, ce qui était déjà grave, mais il y aurait aussi d'autres vengeances, plus sournoises. Et Séverin se mit à penser à ses pauvres enfants. Et il pensa aussi à sa belle-mère, qui, prise de douleur, et ne trouvant pas chez son gendre de quoi se soigner, s'en était retournée aux Arolettes depuis quelques jours. Elle ne pouvait plus guère marcher, la Bernoude. Elle n'était plus bonne à grand-chose. Or, il était question dans le pays d'une nouvelle loi qui serait faite pour les anciens dans la misère. On disait qu'ils toucheraient jusqu'à 15 francs par mois. Séverin et Auguste avaient parlé de cela ensemble. Ils avaient compté sur cette petite rente. Mais... à présent, M. Magnon était un gros bonnet. Il connaissait l'évêque. Il menait ceux du bureau de bienfaisance. On ne trouverait pas la Bernoude assez pauvre. L'argent irait à d'autres. Séverin, sans colère maintenant, roulait en sa tête toutes ses idées tristes. Une lassitude soudaine le courbait. Il piochait toujours du même mouvement régulier, mais il ne pensait plus du tout à son travail. Le soleil s'en allait derrière les frênes minces de la haie. De grandes ombres pointues s'allongeaient côte à côte sur la terre. Bien qu'il fût encore tôt pour rentrer, Florentin, impatient de savoir ce que le maître avait dit à la maison, appela le valet et l'attendit à l'échalier. Les deux hommes, ayant ramassé leurs vestes, s'en allèrent, penauds. Au pâti, M. Magnon n'avait trouvé que les femmes. Il avait fait un tapage à tout casser, disant qu'il mettrait Chauvin à la porte à la fin du bail, et même plus tôt s'il le pouvait. Quant à Séverin et à Florentin, ils étaient sûrs de leur affaire. Les gendarmes allaient être immédiatement prévenus. Les hommes apprirent tout cela en mangeant. Chauvin blâma son valet et son gars. Puis, quand on lui eut bien expliqué les choses, comme la nuit n'était pas encore venue, il décida d'aller chez le maître. « Baille vite ma blouse, Henriette, » dit-il. « Je veux aller le raisonner tout de suite. Toi, mon valet, attends ici, si tu veux savoir. » Séverin attendit. Le patron ne musa pas. Au bout d'une heure, il était de retour. Il rentra sans se presser. « Eh bien, c'est arrangé ?» demanda Florentin.
« Comme ci, comme ça.
Y aura-t-il un procès ?»«
Ça dépend, je vais vous dire. Ça n'a pas trop mal marché. Il a été même coulant. Il m'a dit « Je ne tiens pas à un procès à cause de Florentin. Seulement que Pâtureau sorte de chez vous tout de suite. »«
S'il n'y a que cela, » dit le valet, « ce n'était pas la peine de faire tant de bruit. Je m'en irai. » La Toussaint est dans 5 semaines. Cela ne vous gênera pas trop, moi de même. Mais comment se fait-il donc que sa colère soit si vite tombée ? Florentin eut un rire silencieux. À la fin, tu as parlé sur ta grosse dent ? Il a eu la frousse.
Bah, tu crois ça ?
Bien sûr. Si tu te figures que tu avais l'air commode,